Radio Galaxy 98.5.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue, merci à ceux qui nous rejoignent sur le 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain. Et nous allons partir dans les Pyrénées, mais en raquette cette fois-ci. Nous allons chausser nos raquettes, nous allons partir dans les Pyrénées. Et pour en parler, je suis avec Patrice Tesser-Dufour qui vient de sortir, en fait, il y a un an, le premier tome, le deuxième tome très récemment, sur les randonnées en raquette le long de toute la chaîne des Pyrénées. Patrice, bonjour.
Bonjour Bruno.
Alors Patrice, ça y est, on a chaussé les raquettes, oui. Il y a de la neige sur la chaîne, on va traverser par la partie est des Pyrénées, pour commencer. Allez. Donc il y a deux bouquins, la partie est, il est sorti l'année dernière, avec à chaque fois toujours la même construction sur ces livres. En fait, ce sont des topo guides avec l'adresse, le moyen d'y accéder, quelques conseils pratiques à chaque fois, les conseils pour se rendre sur le lieu, les difficultés, on va expliquer un peu tout ça, et puis surtout comment s'y préparer. À chaque fois, il y a deux grandes catégories, les balades familiales et les balades plutôt sportives, c'est ça?
Oui, en gros c'est ça. Dans le pratique, je donne aussi où manger ou dormir. Que j'estime que si les gens veulent rester 2-3 jours sur site, parce qu'il y a quand même des balades, vu qu'on est dans chaque guide sur des secteurs un peu plus resserrés, je donne par exemple une douzaine de balades sur les Pyrénées-Orientales, une douzaine aussi sur l'Ariège, et puis une sur l'Aude et trois en Andorre. En général, si les gens se disent « tiens, je vais louer un petit gîte ou dormir dans une chambre d'hôte, plutôt dans le Couserans ou dans un autre secteur de l'Est des Pyrénées », ils peuvent en faire une ou deux ou trois au lieu de partir juste à la journée. Mais on peut partir évidemment à la journée. Il y a des balades faciles qui font en général 2h30, 3h, 3h45 de balade. Ça, c'est les balades faciles. Et puis, à partir de deux chaussures, quand c'est en hiver, quand on est en raquette, moi, j'estime qu'à partir de 600 mètres de dénivelé, alors il y a des gens qui sont entraînés, qui sont des bons randonneurs et tout ça, ils vont dire « ouais, ça va ». Mais 600 mètres de dénivelé... pour des gens moyens ou qui font pas souvent de la raquette, c'est quand même déjà un bon dénivelé. Voilà, on va quand même faire une belle sortie. Et il y a de quoi faire sur l'est de la chaîne. Je démarre sur les Pyrénées-Orientales. Mm-hmm. C'est calé, on va dire, d'un côté un peu géographique. Je pars donc des Pyrénées-Orientales le plus près de l'est, donc de la mer. Et puis après, je vais dérouler en allant vers l'ouest. Donc là, on part du Place Gala à Mantet, qui est une réserve naturelle qui est très très belle. Et il y a quand même deux belles balades. Dans ce secteur-là, je donne la deuxième, c'est le refuge de l'Allemagne. Donc voilà, les gens qui veulent aller découvrir Mantet, ça se trouve dans la région du Conflans, dans les Pyrénées-Orientales, en partant au-dessus de Villefranche de Conflans. Et franchement, c'est une super belle vallée, très sauvage. Il y a quasiment personne dans ce secteur-là, en hiver notamment. Une belle sortie, pendant deux jours, on est là-bas.
C'est donc Randonnée en raquette est de la chaîne des Pyrénées, c'est le premier tome dont on parle maintenant, 28 randos de tout niveau. Alors, je mettrai quand même un petit bémol quand on dit 3h30 en raquette, c'est facile. Les raquettes, c'est quand même pas facile à porter, à lever, à traverser, à utiliser. Quel est le conseil qu'on pourrait donner pour bien utiliser les raquettes déjà?
Déjà, de s'entraîner un peu à marcher avec ses raquettes. Il faut savoir, elles prennent un peu de place si on n'a jamais marché avec une paire de raquettes. Mais après, franchement, il faut bien appuyer sur ses bâtons quand on commence à monter. Monter en lacet s'il n'y a pas de chemin qui est tracé au lieu de monter tout droit. On peut monter tout droit si on a les mollets. Il y a vraiment tous les muscles des jambes qui sont faits pour ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez monter tout droit parce qu'elles vont accrocher. Il y a des crampons normalement à la tête de votre raquette qui font que vous allez pouvoir accrocher. Et puis, je pense que les bâtons, c'est les bâtons qui sont les plus importants en fait quand on doit marcher en raquette. Il faut savoir bien appuyer sur ces bâtons. Et aussi, pareil, en descente, il faut savoir mettre ces bâtons un peu devant quand on va descendre en fait une pente et on peut légèrement glisser avec ses raquettes. C'est un vrai plaisir d'ailleurs de s'entraîner à glisser. La raquette, ça permet quand même de passer partout quand il y a de la poudreuse et on peut aussi évidemment passer partout quand la neige est dure ou quand il y en a très très peu, il n'y a pas de souci. Et puis évidemment, s'il n'y a pas de neige, moi je vous conseille de vous enlever vos raquettes pour pas les abîmer, pour pas abîmer les petits crampons qu'il y a dessous. Ça c'est important, pourquoi pas vous les repositionner sur votre sac à dos, vous les portez. Mais c'est pas très dur de marcher en raquette.
Ouais, mais c'est quand même beaucoup plus physique que de marcher à pied.
Ah, mais bien sûr. En gros, on pense que ça va demander environ un quart ou un tiers de temps supplémentaire par rapport à un topo normal. En général, la marche moyenne de quelqu'un, c'est il va monter 300 mètres de dénivelé en une heure. En raquette, on va passer un peu plus de temps. On va monter en une heure 400 mètres ou 450 mètres. Ça dépend de la personne. Et puis il y a des gens que je connais qui peuvent monter 300 mètres en une heure en montagne dans de la poudreuse. Mais bon, ils ont les jambes faites pour ça. Mais en général, on va compter un peu plus. Donc on va compter 400 ou 450 mètres de montée en une heure dans de la neige. Voilà.
Ce qui veut donc dire que les temps qui sont indiqués dans l'ouvrage sont les temps qui sont vraiment pris en compte en raquette.
Oui, bien sûr. Ouais. Et je vais même parfois, ça m'arrive de rajouter un peu du temps en me disant, bah tiens, là, si je l'ai fait un peu vite, je préfère ajouter 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes de plus sur tel parcours en me disant, voilà, mon but, c'est que le lecteur et le lecteur randonneur s'y retrouvent.
Donc, ce premier ouvrage randonnée en raquette est de la chaîne des Pyrénées qui couvre Pyrénées-Orientale, Aude, Ariège et Andorre, avec à chaque fois donc toujours la même présentation, c'est-à-dire la difficulté, le lieu où ça se situe, une petite description, une photo qui à chaque fois montre un petit peu ce qu'on pourrait y trouver éventuellement, ou manger ou dormir, avec aussi quelquefois un petit plus, j'ai bien aimé, ou alors faites attention à ci, faites attention à ça. J'en prends un au hasard. Allez, je prends sur ce livre ici, 28 rando tout niveau sur la partie Est. Je suis sur la rando numéro 18 à Ax-les-Thermes. On va être en Haute-Ariège.
Allez, le rocher de Scaramus.
Le rocher de Scaramus, évidemment. Où on voit sur la page de gauche de chaussures, ça veut dire donc que c'est déjà pour personne un peu musclée.
Alors, j'explique cette rando, ouais, tout à fait. Il y a deux chaussures parce qu'il y a 570 mètres de dénivelé. C'est pas une balade très difficile. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est assez marrant. Ça a été ma première balade que j'ai faite en raquette en 2001. Donc moi, j'ai démarré la rando en raquette. Je faisais que des randos pieds secs, on va dire. Et puis un jour, il y a un copain qui m'a dit, bah quand même et tout. À ce moment-là, je ne travaillais pas encore à Pyrénées Magazine, mais au journal L'Indépendant à Carcassonne. Il m'a dit, allez, je t'amène au rocher de Scaramus. Donc on est monté. C'est une balade vraiment d'initiation à la raquette. C'est un très beau parcours. Il y a juste une chose, quand on veut vraiment monter au rocher de Scaramus, donc il y a d'abord un premier plateau qu'on va passer, et après, si on veut monter au rocher, il y a une ligne un peu droite en fait, donc c'est là où c'est un peu la difficulté, donc il faut passer un peu une côte assez raide, et pas hésiter à faire quelques lacets réguliers, et après ça, franchement, un panorama superbe, et ensuite c'est que de la descente, et c'est que de la régalade, je dirais, dans de la poudreuse en général, sur ce coin-là. On peut même observer beaucoup d'animaux dans le secteur, il y a beaucoup d'isards. On va observer aussi, pourquoi pas, du renard, des lièvres variables. Il y a pas mal d'animaux qui vont traverser, et aussi des cervidés, des sangliers, voilà. Mmh. C'est vraiment un endroit qui est très beau, puis un panorama superbe sur une grosse partie de la chaîne, c'est-à-dire on a une partie de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Ariège, et même du Luchonnet, ça peut aller très très loin, par temps clair, même ça m'est arrivé au Scaramus, je suis allé plein de fois, je suis allé au moins 5 ou 6 fois, de voir même le pic du Mini-Bigorre au fond. Donc c'est vraiment un endroit très très vaste. Et donc là, il y a où manger ou dormir. Il y a un truc qui est assez sympa sur ce parcours-là, c'est que, alors si c'est dégagé, s'il n'y a pas trop de neige dessus, on peut observer en fait une borne de fleurs de lys à la redescente en fait sur ce secteur-là. Avant le col de Géral, en fait, il y avait une forêt en fait qui a été une forêt royale et il y avait des fleurs de lys en fait sur certains rochers qui ont été marqués. Donc on peut monter en ce moment déjà au rocher de Scaramus, on aura un peu de la neige au-dessus. Donc par contre, là, il y aura une partie où il faudra porter les raquettes. Mais après, quand on va commencer à être à 1800-2000, on pourra franchement faire de la raquette. On peut monter au-dessus du rocher de Scaramus en cette période de l'année. Et puis, ça peut être tard en saison. Parce que moi, je me souviens que, par exemple, pour ce guide qui fait l'est de la chaîne, et puis pour l'autre aussi, on peut encore monter dans les Pyrénées centrales pendant longtemps, jusqu'à fin avril, début mai. On va avoir de la neige très longtemps. Tous les secteurs qui sont au-dessus de 2200 mètres d'altitude, on aura encore de la neige pendant longtemps. Moi, je me souviens avoir fait des balades côté Catalogne, dans le Val d'Aran, côté Cirque des Colomers. Dans tout ce secteur-là, en fait, les gens partaient déjà à la plage. Et moi, j'étais début mai et on était encore en train de faire un tour dans le parc national des Aigues-Tortes, des Incantates. Et on faisait tous les lacs qui étaient encore gelés, alors que les gens faisaient déjà des tours sur les plages du côté de Narbonne. Donc voilà, quoi, c'est assez marrant.
Je reste sur le même ouvrage encore, randonnée en raquette est de la chaîne des Pyrénées. Je suis rando numéro 25 à Saint-Lary. On va dans le Couserans cette fois-ci. Maintenant, on est sur trois chaussures.
On est trois chaussures, ouais, tout à fait. Alors le col de la Croisette, c'est une balade sportive. Il n'y en a pas des tonnes. Il y en a quelques-unes, en fait, dans ce guide. Il y a beaucoup plus de familiales que de sportives. Mais ce que j'aime bien, en fait, dans celle-là, c'est que... Alors, moi, je ne conseille pas aux gens de faire la balade en entier, s'ils ne le sentent pas, mais s'ils veulent vraiment se dépayser, ils vont quand même, dans ce petit secteur de Saint-Lary, de la Baie-Longue, Et puis, ils vont aller découvrir en fait ce chemin où il y a plein de granges et un super beau panorama. Il n'y a quasiment personne sur ce coin-là. Et ils ne sont pas obligés de monter jusqu'au col de la Croisette. Ils peuvent s'arrêter avant. On part depuis un tout petit village qui s'appelle Anos. Et ils auront quand même des superbes belles petites vues. Si on a envie, on peut monter juste au promontoire du Mail de l'Aube, qui fait 1h20 de marche, aller. Et on va redescendre en moins d'une heure, parce que la descente est beaucoup plus rapide. Et franchement, vous aurez déjà eu un beau parcours, un petit panorama sympa. Et vous aurez vu déjà au moins 5 ou 6 belles granges sur le parcours.
À cette saison-ci de l'année, les meilleurs horaires pour les randos, c'est quoi? C'est fin de matinée, c'est début d'après-midi, c'est quoi?
Le meilleur moment, c'est la matinée. En fait, alors je ne sais pas d'où les gens vont partir, mais en général, si vous avez 1 à 2 heures de route, allez, ça serait bien que vous arriviez à 9h30, 10h sur place, voire plus tôt hein, si vous pouvez. Moi, je dirais que le mieux, c'est 9h sur place. Parfois, il fait encore très frisqué, et donc le temps de se mettre les raquettes, aller de se chauffer un peu et tout. Si c'est une belle journée, il vaut mieux marcher entre 9h et 15h. Et de retour à la voiture assez tôt, parce que souvent, l'après-midi, alors il y a plusieurs facettes. Soit il fait très très chaud, en fin de saison, vous allez avoir de la neige qui va commencer à glisser, à être complètement molle, ça va vraiment pas être génial pour redescendre. Soit la neige peut durcir dans l'après-midi, peut faire très très froid à partir de 16h, donc c'est pas génial non plus, parce que vous risquez de glisser sur des plaques de verglas. Donc le mieux, c'est de partir le matin, 9h, 9h30, et puis qu'il n'y ait pas trop de brouillard non plus. Et puis après, de passer au-dessus des nuages, de monter tranquillement, et puis de profiter des super beaux moments, des moments les plus chauds de la journée. On va être le moment le plus chaud de la journée, voilà, c'est entre midi et 14h30, 15h. Et après, le temps de redescendre, qu'il fasse encore bon, voilà, 16h30 à la voiture, le temps de s'enlever les trucs et tout. Et hop, on est reparti pour rentrer. On arrive souvent de nuit à la maison. Quoi.
On vient de parler du premier tome qui était sorti l'année dernière, Randonnée en raquette Est de la chaîne des Pyrénées, qui couvrait Pyrénées orientales, Aude, Ariège, Andorre avec 28 randos. Et le guide tout chaud qui vient de sortir il y a quelques semaines, c'est cette fois-ci la chaîne Ouest des Pyrénées qui couvre Haute-Garonne, Haute-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques et aussi Aragon.
Oui, tout à fait, c'est ça. Alors bon, en Aragon, j'en ai qu'une à proposer, mais c'est un endroit qui est très très beau, c'est dans la vallée de Benasque. En fait, là, c'est pour un chouette week-end presque en amoureux, parce que la balade n'est pas du tout difficile, mais c'est pour aller dormir à l'hôpital des Benasques. L'hôpital de Benasque, il y a des bains, c'est un chouette endroit qui est vraiment très cosy. Vous allez partir sur une balade vers la cabane de Plaine d'Estagne, vers la cabane de la Bézourte. S'il fait beau et que vous êtes en forme, il faut continuer au-delà, parce que c'est que des petits plateaux chaque fois qui sont un peu rehaussés. Donc la balade, elle fait 2 heures. On se trouve au pied de l'Aneto, versant nord de l'Aneto, et on est au pied des 3000 du Luchonnet, mais versant sud, en fait. C'est vraiment une vallée où on est dominé par des géants. C'est une vallée avec des sommets grandioses, donc ça vaut vraiment le coup du déplacement. Puis après, j'ai 2 balades que je propose dans le Val d'Aran, donc en Catalogne, mais dans le cirque des Colomers. Puis l'autre, c'est à la cabane de Pruedo. Donc 2 balades sympas autour de lacs aussi, qui sont assez chouettes. Moi, je dirais pour la Haute-Garonne, puisqu'on est quand même en Haute-Garonne, ici sur Radio Galaxie, il y a quand même 8 balades possibles à faire. Je les aime toutes, parce qu'elles ont toutes un petit truc chouette. Je dirais qu'une balade d'initiation, aller au pic de Palomère. C'est une balade familiale assez facile. Vous allez jusqu'au col de Portée d'Aspé. Et là, vous allez monter pour avoir un super beau belvédère. C'est pas très très loin, franchement, soit depuis le Comminges, soit même depuis Toulouse. C'est facile, on est au sud d'Aspé. Ça vaut vraiment le coup. Une balade qu'on peut faire hors saison avant que la station du Mourtis ouvre, c'est le tube de l'étang. C'est-à-dire, on va faire toutes les crêtes qui se trouvent en haut de la station du Mourtis. Donc une balade un peu sportive, mais qui est très chouette parce que vous allez passer chaque crête et vous allez avoir un panorama sur tous les 3000 du Luchonnet, sur le massif de la Maladetta et sur les sommets d'Ariège, qui vaut vraiment le coup. Mmh. Après, il y a aussi une autre balade au col de Peyresourde, c'est le Pic de l'Aigle. Alors je la marque sportive, mais on peut s'arrêter quand on veut. C'est la balade numéro 8. Si on veut la prendre, donc on démarre du col, il y a une petite montée en lacet, et à partir de là, ce qui est chouette, c'est qu'on est sur une crête à cheval entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, et on se dirige vers le sommet de l'Aigle. Alors, on peut s'arrêter quand on veut. Le sommet de l'Aigle, c'est le sommet un peu presque le plus loin, enfin il y en a d'autres, il y a le Pic du Lion qui est encore plus éloigné, mais le sommet de l'Aigle, c'est un sommet qui a 3 heures de marche du départ, mais il y a d'autres sommets sur lesquels on peut s'arrêter, par exemple le Pic d'Arouy, qui est un sommet un peu intermédiaire au milieu, à 1850 mètres, et on a un panorama, mais de dingue. Puis là, c'est en général, c'est tout le temps enneigé, quoi. Et c'est des deux côtés, on a de la vue, enfin voilà, c'est...
Ces chemins-là que vous nous conseillez, Patrice Tesser-Dufour, pour ses livres aux éditions Sud-Ouest, on peut y être tranquille ou ce sont des autoroutes ?
Non, on peut y être tranquille. En général, il n'y a pas grand monde. Moi, sur le sommet, en allant vers donc le Pic de l'Aigle, là, j'avais croisé 2-3 personnes. À Palomer, pareil, j'ai croisé 2 personnes. Donc c'est vraiment très calme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. Il y a des endroits beaucoup plus réputés que ça. Sur la Haute-Garonne, évidemment, sur la station du Mourtis, vous aurez plus de monde, parce que les gens sont intéressés par ce coin-là. Mais par exemple, la cabane de Barren, je propose une balade depuis le village de Barren, dans le Luchonnet. Et là, on n'a croisé personne. Les seuls êtres vivants qu'on a croisés, c'était une harde de biches, un cerf, 3 isards, et il y avait 2 petites cabanes, voilà, ça vaut le coup. Il y a même le pic de Bacaner que je donne, alors là, c'est une vraie balade sportive avec 900 mètres de dénivelé. Il faut partir tôt le matin. Vous allez avoir un peu de monde au début, jusqu'à la cabane de Sonner. Mais après, pour faire toute la crête, entre le plan de Montmajou et le pic de Bacaner, on n'a eu personne ce jour-là. Donc, il y a des balades, franchement, où il n'y a pas grand monde, en fait, sur le terrain, quoi. Surtout en semaine. Voilà. Après, le week-end, ça dépend. Il y a peut-être parfois un peu plus de monde. Peut-être qu'il y aura plus de monde si tout le monde achète le guide. Hein. C'est l'anecdote. Mais après, en général, non, ça... Voilà. Et puis, juste une chose aussi, que j'ai oublié de préciser. En général, ouais, le temps, le timing que je donne, il est fait en fonction des gens qui sont aussi avec moi. Donc souvent, je suis parti soit avec ma compagne, soit avec mes enfants, soit avec des journalistes stagiaires qui étaient avec moi. Et franchement, j'ai essayé de respecter ces temps-là et de faire très attention. Donc je donne un temps que normalement, les gens pourront faire. Sauf peut-être pour le pic de Bacaner, qui est un sommet sportif, avec un temps sportif peut-être. Mais pour le reste, non, en général, c'est à la portée de tout le monde.
Patrice Tesser-Dufour, randonnée en raquette, 2 tomes est de la chaîne des Pyrénées, Pyrénées orientales, Aude, Ariège, Andorre, ouest de la chaîne des Pyrénées, Haute-Garonne, Haute-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques et Aragon. 12 € chez Ouest France, avec à chaque fois, pour chaque randonnée, une carte, un niveau de difficulté, des photographies et la rubrique où est-ce qu'on peut se reposer, où est-ce qu'on peut manger également. Quelle est la meilleure période pour partir en raquette ?
Moi, je dirais ça va être de décembre à mars-avril. Il y a un truc assez chouette. Bon, allez, on va dire il y a 2 moments très bien. Janvier-février, tout est gelé. C'est vraiment très froid, des froids secs. Vous êtes sûr, en général, d'avoir quand même de la neige à peu près partout. Mais j'aime bien aussi la période de mars-avril où on sent que petit à petit, la nature va commencer à reprendre ses droits. Parfois, il y a des petits ruisseaux qui se remettent à couler, des endroits où on sent qu'il va y avoir un nouveau de la vie. Et j'aime bien cette période de mars-avril pour faire encore de la raquette, parce qu'on se dit, tiens, on profite encore de la neige, un peu encore de l'hiver, les derniers coups de froid, les derniers coups durs de la montagne encore de l'hiver, et il y a des endroits encore facilement accessibles qui valent vraiment le coup. Et vous n'aurez pas grand monde, parce que en général, les gens, souvent, ils pensent faire de la raquette de décembre à février ou début mars. En mars-avril, on peut encore faire, voire le mois de mai, comme j'ai dit, encore de très très belles balades en raquette dans les Pyrénées.
Patrice Tesser-Dufour, randonnée en raquette, 2 tomes, édition Sud-Ouest, tome 1, est de la chaîne des Pyrénées, tome 2, ouest de la chaîne des Pyrénées, 12 € seulement, 26 pour l'un, 28 pour l'autre, pour tout niveau, familial ou sportif, avec les conseils aussi pour s'équiper, pour bien partir au début, et puis aussi les conseils pour respecter la nature, faire attention à ne pas laisser ses détritus un peu partout sur la montagne.
Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. D'ailleurs, j'ai pas dit non plus le petit mot. Je fais un petit édito au début où je dis, vous trouverez des balades d'initiation et j'explique les balades d'initiation, des balades de cabane magique, des balades de lac glacé, des balades de grandiose en crête. Et c'est vrai que je dis dans le pratique, avant le départ, comment il faut s'équiper. Pendant la rando, le matériel indispensable, la trousse à pharmacie, respecter la nature et rapporter ses déchets. On rapporte toujours ses déchets, que ce soit d'ailleurs n'importe quelle saison, et je dis à peu près le temps que mettent, par exemple, un mouchoir en papier à se décomposer, une pelure de fruits, une allumette, un mégot de cigarette, un gant. Donc ça, c'est super important. Et aussi, quelque chose d'important aussi, c'est l'orientation. Quand vous partez, surtout en hiver, boussole, altimètre, carte hygiène ou E1-25 millième sont indispensables. Et puis, j'explique aussi pourquoi. Et puis, si vous êtes perdu, faut pas paniquer. Normalement, tout le monde a aujourd'hui un téléphone portable, en espérant qu'il ne soit pas éteint.
Ça passe là-haut ?
Ouais, ça passe là-haut. Vous avez normalement une boussole. Tout le monde a une boussole dans ses utilitaires de son portable. Et vous avez aussi vos points GPS. Donc, si vraiment vous êtes complètement perdu, vous appelez le 112, donc le numéro de secours en montagne, numéro qui passe partout, côté français ou espagnol. Et là, vous allez sûrement tomber sur une unité de secours de montagne, que ce soit le peloton de gendarmerie de haute montagne, de PGHM, ou la CRS de montagne, les compagnies républicaines de sécurité en montagne, qui vont vous demander votre point GPS. Donc ça, vous le retrouverez dans votre portable, vous l'avez toujours. Et vous pouvez même activer votre boussole, voilà. Donc il y a vraiment plein de choses que vous pouvez donner. Et puis dire sinon le dernier endroit où vous avez remarqué, où vous étiez, voilà. En général, sur mes balades en raquette, on ne peut pas se perdre. La seule chose que je demande à mes lecteurs randonneurs, c'est qu'ils partent pas un jour où il y a vraiment un brouillard à couper au couteau. Hein. Et puis non plus, bah, s'il y a un orage de dingue, je pense que ça sert à rien. Il faut savoir dire la nature est plus forte que moi. Et donc il y a des méthodes en fait pour s'en sortir tout le temps en montagne. Et puis de ne pas tenter l'impossible. Hein. Il faut faire attention à des endroits. Ça sert à rien de prendre des raccourcis non plus. Il faut pas essayer de couper à travers la montagne. Et on jette rien non plus en dessous de soi, je le répète. Je le dis souvent aux enfants, mais on peut le dire aussi aux adultes. Voilà, on ne jette jamais, on sait pas qui c'est qui est en dessous de nous en montagne, donc il faut faire toujours attention. Voilà, donc il y a des petites choses à savoir, il faut respecter la montagne, mais le but, voilà, c'est de contempler la montagne, d'en profiter. C'est pas la peine de monter souvent bien haut pour profiter des grands espaces, hein. Moi je le dis souvent, et c'est un vrai plaisir de se dépayser dans ces endroits-là.
Randonnée en raquette, Patrice Tesser-Dufour, édition Sud-Ouest, 12 euros chacun des volumes. À très bientôt pour d'autres aventures et d'autres ouvrages.
Ben, merci Bruno.
De Riom à Haute-Rive, de Muret jusqu'au pied des Pyrénées, on écoute Radio Galaxie sur le 98.5 FM.